Les manuscrits de 1844 par Karl Marx. Salaire, profit et rente foncière. Premier point, le salaire. Plaçons-nous entièrement au point de vue de l'économiste et comparons après lui les exigences théoriques et pratiques des ouvriers. On nous dit que primitivement et par définition, le produit entier du travail appartient à l'ouvrier. Mais on nous dit en même temps que dans la réalité, l'ouvrier ne reçoit que la partie la plus petite, absolument indispensable, du produit. Tout juste ce qui est nécessaire pour vivre, non pas comme un être humain, mais comme un travailleur. Pour perpétuer non pas l'humanité, mais la classe des esclaves ouvriers. L'économie politique nous dit que tout s'achète avec du travail, que le capital n'est que du travail accumulé. Mais elle nous dit en même temps que loin de pouvoir tout acheter, l'ouvrier doit se vendre lui-même et vendre son humanité. Alors que, d'après l'économiste, c'est seulement grâce au travail que l'homme augmente la valeur des produits naturels. Que le travail est sa propriété active. D'après la même économie politique, le propriétaire foncier et le capitaliste, qui, en tant que tels, ne sont que des dieux privilégiés et oisifs, sont partout supérieurs à l'ouvrier et lui imposent leurs lois. Alors que, d'après les économistes, le travail est le seul prix immuable des choses. Rien n'est plus contingent que le prix du travail. Rien n'est exposé à de plus grandes fluctuations. Alors que la division du travail en augmente la force productive, la richesse et le raffinement de la société, elle appauvrit l'ouvrier en le ravalant à l'état de machine. Alors que le travail provoque l'accumulation des capitaux et crée ainsi la prospérité croissante de la société, il rend l'ouvrier de plus en plus dépendant du capitaliste, le jette dans une concurrence plus intense, l'entraîne dans la course effrénée de la surproduction, que remplace bientôt une dépression non moins démesurée. Alors que, d'après l'économiste, l'intérêt de l'ouvrier n'est jamais opposé à l'intérêt de la société, celle-ci s'oppose toujours et nécessairement à l'intérêt de l'ouvrier. D'après les économistes, l'intérêt de l'ouvrier n'est jamais opposé à celui de la société. Premièrement, parce que l'augmentation du salaire est plus que compensée par la diminution de la quantité du temps de travail, dont les autres conséquences ont été exposées plus haut. Deuxièmement, parce que, par rapport à la société, tout le produit brut étant un produit net, celui-ci n'a d'importance que par rapport à l'individu privé. Mais, sans que l'économiste le sache lui-même, ses conceptions démontrent que le travail comme tel, non seulement dans les conditions présentes, mais en général, pour autant que son seul but est l'accroissement de la richesse, est nuisible et funeste. Par essence, la rente foncière et le profit du capital sont des retenues subies par le salaire. Dans la réalité, le salaire est une retenue que la terre et le capital accordent à l'ouvrier, une concession que le produit du travail fait au travailleur, au travail. Le travailleur souffre le plus quand la société est sur le déclin. Le poids spécifique de sa servitude, il la doit à sa position de travailleur. Mais la servitude comme telle, c'est la situation de la société qui la lui inflige. Mais, dans l'état progressif de la société, la ruine et l'appauvrissement du travailleur sont le produit de son travail, de la richesse qu'il crée. Cette misère, c'est donc de la nature même du travail, tel qu'il existe de nos jours, qu'elle découle. Le plus grand enrichissement de la société est un idéal dont on s'approche plus ou moins. C'est en tout cas le but de l'économie politique et de la société bourgeoise, quand c'est la misère stationnaire pour les travailleurs. Il va de soi que l'économie politique ne considère le prolétaire qu'en tant que travailleur. C'est celui qui, n'ayant ni capital ni rente foncière, vit uniquement de son travail, d'un travail abstrait et monotone. Elle peut donc affirmer que, tout comme une bête de somme quelconque, le prolétaire mérite de gagner suffisamment pour pouvoir travailler. Quand il ne travaille pas, elle ne le considère pas comme un être humain. Cette considération, elle l'abandonne à la justice criminelle, aux médecins, à la religion, aux statistiques, à la politique, à la charité publique. Élevons-nous maintenant au-dessus du niveau de l'économie politique et, tirant la conclusion de ce qui vient d'être exposé, presque dans les termes mêmes des économistes, cherchons à répondre à deux questions. Premièrement, quel sens convient-il de donner, dans l'évolution de l'humanité, au fait que la majeure partie des hommes est réduite au travail abstrait? Deuxièmement, quelles sont les erreurs commises par les réformateurs en détail, qui voudraient ou bien élever le salaire et améliorer ainsi la condition ouvrière, ou bien considère comme Proudhon l'égalité du salaire comme le but de la révolution sociale. En économie politique, le travail ne se présente que sous l'aspect de l'activité lucrative. Deuxième point, le profit du capital. Sur quoi repose le capital ? Autrement dit, la propriété privée des produits du travail d'autrui. Citation de Jean-Baptiste Say. Ouvrez les guillemets. En supposant même que le capital ne soit le fruit d'aucune spoliation, mais d'une accumulation lente pendant plusieurs générations, il faut encore, de même que pour la terre, l'aide de la loi pour en consacrer l'hérédité. Fermez les guillemets. Qu'acquiert-on avec le capital, grâce à l'héritage d'une grande fortune, par exemple? Citation d'Adam Smith. Ouvrez les guillemets. Celui qui acquiert une grande fortune, ou qui l'a par héritage, n'acquiert pas par là nécessairement un pouvoir politique quelconque. Le genre de pouvoir que cette possession lui transmet immédiatement et directement, c'est le pouvoir d'acheter. C'est un droit de commandement sur tout le travail d'autrui ou sur tout le produit du travail existant alors sur le marché. Fermez les guillemets. Par conséquent, le capital est le pouvoir qui règne sur le travail et ses produits. Le capitaliste possède ce pouvoir non pas en vertu de ses qualités personnelles ou humaines, mais en tant que propriétaire de capital. Son pouvoir, c'est le pouvoir d'acheter qu'il tient de son capital. Rien ne peut résister à cette puissance. Nous verrons plus loin comment, par l'intermédiaire du capital, le capitaliste exerce son pouvoir sur le travail. Mais nous verrons ensuite le pouvoir de gouvernement que le capital possède sur le capitaliste lui-même. Qu'est-ce que le capital ? Une certaine quantité de travail amassée et mise en réserve. Les fonds, ou stocks, ne s'appellent capital que lorsqu'ils rapportent à leur propriétaire un revenu ou un profit. Le capitaliste profite doublement. Premièrement, grâce à la division du travail. Deuxièmement, en général, grâce au progrès que le travail humain fait subir aux produits naturels. Plus est grande la part humaine dans une marchandise, plus est grand le profit du capital inanimé. Troisième point, la rente foncière. Du fait que le propriétaire foncier exploite tous les avantages de la société, Smith conclut que l'intérêt du propriétaire foncier est toujours identique à celui de la société. c'est là une ineptie. En économie politique, sous le règne de la propriété privée, l'intérêt qu'un individu a dans la société est directement opposé à l'intérêt que la société lui porte. Tout comme l'intérêt de l'usurier pour le prodigue n'est aucunement identique à l'intérêt du prodigue. Nous ne mentionnons qu'en passant la soif de monopole du propriétaire foncier en regard de la propriété foncière des pays étrangers, d'où viennent par exemple les lois céréalières. Nous passons également sur le servage au Moyen-Âge, l'esclavage dans les grandes colonies, la misère des agriculteurs journaliers en Grande-Bretagne. Tenons-nous-en aux thèses mêmes de l'économie politique. Premièrement, le propriétaire foncier est intéressé au bien-être de la société. Cela signifie, d'après les principes de l'économie politique, qu'il est intéressé à l'accroissement de la population, au progrès des arts, à la multiplication des besoins, en un mot, à l'augmentation de la richesse. Or, nous avons vu que tout cela signifie accroissement de la misère et de l'esclavage. Le loyer qui s'accroît avec la misère est un exemple de l'intérêt du propriétaire foncier pour la société. Car, avec le loyer, la rente, l'intérêt du terrain sur lequel la maison est construite, vont en augmentant. Deuxièmement, d'après les économistes, l'intérêt du propriétaire foncier est en opposition totale avec celui du fermier, donc à une partie déjà considérable de la société. Troisièmement, comme le propriétaire foncier peut exiger de son fermier une rente d'autant plus élevée que celui-ci paie moins de salaire, et comme le fermier diminue d'autant plus le salaire de ses ouvriers que le propriétaire exige plus de rente, l'intérêt du propriétaire foncier est tout aussi opposé à celui des ouvriers agricoles que l'intérêt des patrons des manufactures l'est à celui de leurs ouvriers. D'où nouvel abaissement du salaire à un minimum. Quatrièmement, comme la baisse réelle du prix des produits manufacturés augmente la rente foncière, le propriétaire foncier a un intérêt direct à l'abaissement des salaires des ouvriers de fabrique, à la concurrence entre les capitalistes, à la surproduction, à toute la misère industrielle. Cinquièmement, si, bien loin d'être identique à celui de la société, l'intérêt du propriétaire foncier est en opposition totale à l'intérêt des fermiers, des ouvriers agricoles, des ouvriers industriels et des capitalistes, il n'y a pas davantage d'identité entre l'intérêt d'un propriétaire foncier et celui d'un autre, étant donné la concurrence que nous allons considérer à présent. En général, le rapport entre la grande et la petite propriété foncière est comparable au rapport entre le grand et le petit capital. Mais il s'y ajoute en outre des circonstances spéciales qui conduisent inéluctablement à l'accumulation de la grande propriété et à l'engloutissement par celle-ci de la petite. Premièrement, c'est dans la propriété foncière que le nombre relatif des travailleurs et des instruments diminue le plus à mesure que s'en agrandit le fonds. De même, nulle part la possibilité de l'exploitation illimitée, de l'économie des coûts de production et une division du travail efficace n'augmente davantage. Si petit que soit un champ, les instruments de travail qu'il nécessite, charrues, semoirs, etc., atteignent une certaine limite au-dessous de laquelle ils ne peuvent plus être diminués, alors que le fonds peut rapetisser bien au-delà de cette limite. Deuxièmement, la grande propriété foncière accumule à son seul bénéfice les intérêts du capital que le fermier, lui, emploie pour améliorer le sol. La petite propriété foncière, qui doit utiliser son propre capital, ne bénéficie en rien de ce profit. Troisièmement, alors que toute amélioration sociale sert la grande propriété foncière, elle nuit à la petite parce qu'elle augmente sans cesse ses besoins d'argent liquide. Quatrièmement, deux lois importantes restent à considérer. Petit a, citation d'Adam Smith. Ouvrez les guillemets. La rente des terres cultivées pour produire la nourriture des hommes règle la rente de la plupart des autres terres cultivées. Fermez les guillemets. Seule la grande propriété foncière peut, en fin de compte, produire des denrées alimentaires, le bétail, etc. Elle règle donc la rente des autres terres et peut la réduire à un minimum. Le petit propriétaire foncier, qui travaille à son propre compte, se trouve alors par rapport au grand propriétaire foncier, dans la situation où l'artisan qui possède ses propres outils se trouve par rapport au patron de la fabrique. La petite propriété foncière est devenue un simple instrument de travail. La rente foncière disparaît complètement pour le petit propriétaire. Tout au plus, lui reste-t-il l'intérêt de son capital et de son salaire ? Car la concurrence peut amener la rente foncière à un point où elle n'est plus que l'intérêt du capital non investi par l'exploitant lui-même. Petit b, nous avons vu ailleurs qu'à fertilité égale et à exploitation également efficiente des terres, mines, pêcheries, le produit est proportionnel à l'importance des capitaux. C'est le triomphe du grand propriétaire foncier. De même, à égalité des capitaux, le produit est proportionnel à la fertilité. À capital égal, c'est le propriétaire du terrain le plus fertile qui triomphe. Petit c. Citation d'Adam Smith. Ouvrez les guillemets. On peut dire d'une mine en général qu'elle est féconde ou qu'elle est stérile, selon que la quantité de minerai que peut en tirer une certaine quantité de travail est plus ou moins grande que celle qu'une même quantité de travail tirerait de la plupart des autres mines de la même espèce. Fermez les guillemets. Ce que Smith dit ici des mines s'applique plus ou moins à la propriété privée en général. Petit d, nouvelle citation d'Adam Smith, ouvrez les guillemets. Il est à remarquer que partout, le prix courant des terres dépend du taux courant de l'intérêt. Si la rente de la terre tombait bien au-dessous de l'intérêt de l'argent, personne n'achèterait des terres, ce qui réduirait bientôt leur prix courant. Fermez les guillemets. Il résulte de ce rapport entre la rente foncière et l'intérêt de l'argent que la rente foncière doit sans cesse baisser, si bien que, finalement, seuls les gens les plus riches peuvent en vivre. Aussi, la concurrence entre les propriétaires fonciers non-bailleurs s'accroît-elle constamment. La ruine d'une partie de ceux-ci favorise une accumulation renouvelée de la grande propriété foncière. Cette concurrence a en outre pour conséquence le transfert d'une grande partie de la propriété foncière entre les mains des capitalistes, ceux-ci devenant alors des propriétaires fonciers. De même, les petits propriétaires ne sont déjà plus que des capitalistes. En même temps, une partie de la grande propriété foncière devient industrielle. L'ultime conséquence en est la disparition de la différence entre le capitaliste et le propriétaire foncier, de sorte qu'il n'existe plus, en général, que deux classes de la population, celle des travailleurs et celle des capitalistes. La propriété foncière, livrée au trafic sordide, la transformation de la propriété foncière en marchandise, voilà la chute finale de la vieille aristocratie et la suprême consécration de l'aristocratie de l'argent. Premièrement, nous ne partageons pas la douleur sentimentale que les natures romantiques éprouvent en cette occasion. Ces gens confondent toujours la turpitude qui consiste à trafiquer de la terre avec le système, parfaitement conséquent et raisonnable dans le régime de la propriété privée, du trafic de la propriété privée de la terre. En premier lieu, la propriété foncière féodale est déjà par nature terre commercialisée, terre étrangère à l'homme, s'opposant à lui sous l'aspect de quelques grands seigneurs. Déjà sous la propriété féodale, la puissance de la terre domine les hommes comme une force étrangère. Le serf est l'accessoire de la terre. De même, le bénéficiaire du majorat, le fils premier-né, appartient à la terre. Elle en hérite. En général, c'est avec la propriété foncière que commence la domination de la propriété privée. Elle en est le fondement. Mais sous la propriété féodale, le seigneur fait du moins figure de roi du bien foncier. De même, entre le possesseur et sa terre, existe encore un rapport plus intime que celui de la simple richesse matérielle. Le fonds tient son individualité du maître, il a son rang, il est baronnie ou comté, il en a les privilèges, la juridiction, le rapport politique, etc. Il apparaît comme le corps inorganique du seigneur. D'où le dicton « Nulle terre sans maître » où s'exprime la confusion de la souveraineté et de la propriété foncière. La domination de la propriété foncière n'apparaît pas non plus comme la domination directe du simple capital. Pour ses ressortissants, la propriété foncière est en somme leur patrie. Elle est une sorte de nationalité étriquée. La propriété foncière féodale donne le nom à son seigneur comme le royaume confère le sien à son roi. L'histoire de son lignage, l'histoire de sa maison, etc., tout cela individualise pour lui le bien foncier et en fait formellement une maison, une personne. De même, les cultivateurs du bien foncier n'ont pas le statut de journalier. Ou bien ils en sont eux-mêmes la propriété en tant que serfs, ou bien ils lui sont attachés par des liens de respect, d'allégeance, de devoir. Les relations sont directement politiques. Elles ont même des traits affectifs. Les mœurs, le caractère, etc. changent d'une terre à l'autre et semblent ne faire qu'un avec la parcelle. Alors que plus tard, il n'y aura plus que la bourse de l'homme et non son caractère, son individualité, pour le relier au bien foncier. Enfin, le seigneur ne cherche pas à tirer le plus grand avantage possible de sa terre. Il consomme plutôt ce qui s'offre et abandonne tranquillement aux serfs et aux fermiers le soin de le lui procurer. Telle est la nature nobiliaire de la propriété foncière qui auréole son maître d'une gloire romantique. Il faut que cette apparence prenne fin, que, source de la propriété privée, la propriété foncière soit entraînée dans le mouvement de celle-là et devienne marchandise. Que la domination du propriétaire apparaisse comme la franche domination de la propriété privée, du capital, dépouillée de toute coloration politique, que le rapport du propriétaire et du travailleur se réduise au rapport économique d'exploiteur à exploité, que toute relation personnelle du propriétaire avec sa propriété cesse, et que celle-ci ne soit plus que la simple richesse matérielle de l'objet. Que le mariage d'intérêt se substitue au mariage d'honneur avec la terre, et que, tout comme l'homme, la terre se dégrade à une valeur vénale. Il faut que, source de la propriété foncière, le sordide intérêt personnel apparaisse aussi sous sa forme cynique. Il faut que le monopole passif se mue en monopole actif et agité. La concurrence, et que la jouissance oisive de la sueur et du sang des autres se change en un négoce énergique de ce même article. Enfin, il faut que, dans cette concurrence, la propriété foncière révèle, sous l'aspect du capital, sa domination aussi bien sur la classe des travailleurs que sur les propriétaires eux-mêmes, tantôt ruinés, tantôt enrichis, par les lois du mouvement du capital. C'est alors qu'au dicton médiéval « Nulle terre sans seigneur » se substitue le dicton moderne « L'argent n'a pas de maître » où s'exprime toute la servitude de l'homme écrasée par la matière inerte. Deuxièmement, en ce qui concerne la controverse sur la division ou la non-division de la propriété foncière, il convient de noter la division du bien foncier nie le grand monopole de la propriété foncière, l'abolit, mais uniquement en généralisant ce monopole. Elle n'abolit pas le fondement du monopole, la propriété privée. Elle s'attaque à l'existence du monopole, mais non à son essence. Il s'ensuit qu'elle tombe victime des lois de la propriété privée. La division du bien foncier correspond en effet au mouvement de la concurrence dans le domaine industriel. Outre les inconvénients économiques de cette division des instruments et du travail accompli dans la séparation, cette division, de même que la concurrence dans l'industrie, conduit nécessairement à l'accumulation. Ouvrez la parenthèse. Il convient de bien distinguer cette division de la division du travail. Le travail n'est pas réparti entre les nombreux travailleurs, mais le même travail est effectué pour soi, par chacun. C'est la multiplication d'un même travail. Fermez la parenthèse. Là où se produit la division du bien foncier, il ne reste plus qu'à retourner au monopole sous une forme encore plus hideuse, ou bien à nier, à abolir la division de ce même bien foncier. C'est non pas revenir à la propriété féodale, c'est abolir la propriété du sol en général. La première abolition du monopole est toujours sa généralisation, l'élargissement de son existence. Arrivé à son existence la plus large et la plus complète possible, le monopole aboutit à son abolition, à sa destruction totale. L'association, appliquée à la terre, possède l'avantage de la grande propriété foncière au point de vue économique. Elle seule réalise la tendance originelle de la division, à savoir l'égalité, de même qu'elle rétablit sur une base raisonnable, et non plus à travers le servage, l'autorité et l'inepte mystique de la propriété, le lien intime de l'homme avec la terre. Grâce au travail libre et à la libre jouissance, la terre cesse d'être un objet de trafic et redevient la véritable propriété personnelle de l'homme. Un des grands avantages de la division, c'est que les masses paysannes sont ruinées par la propriété d'une manière autre que les masses de l'industrie. Elles ne peuvent plus se résoudre à la servitude. En ce qui concerne la grande propriété foncière, ses défenseurs lui ont toujours attribué d'une manière sophistique les avantages économiques qu'offre l'agriculture à grande échelle. Comme si, par l'abolition de la propriété, ces avantages n'aboutissaient pas justement soit à leur extension la plus large possible, soit à leur utilité sociale. Ils ont attaqué de même l'esprit mercantile de la petite propriété foncière, comme si, déjà sous sa forme féodale, la grande propriété foncière ne renfermait pas le mercantilisme d'une façon latente. Sans parler du système anglais moderne, qui combine le féodalisme du propriétaire foncier, le trafic et l'industrie du fermier. La propriété divisée reproche à la grande propriété d'être un monopole. Mais celle-ci peut lui retourner le reproche, puisque la division est elle-même fondée sur le monopole de la propriété privée. De même, la propriété divisée peut renvoyer à la grande propriété foncière le reproche que la division est son fait, car là aussi, elle règne, bien que sous une forme figée, cristallisée. La propriété privée repose indubitablement sur la division. Du reste, comme la division du bien foncier ramène à la grande propriété foncière en tant que richesse d'argent, la propriété féodale, quoi qu'elle fasse pour résister, doit nécessairement conduire à la division ou, à tout le moins, tomber entre les mains des capitalistes. En effet, la grande propriété foncière, comme il arrive en Angleterre, pousse l'écrasante majorité de la population dans les bras de l'industrie et réduit ses propres travailleurs à une misère extrême. En rejetant les pauvres et toute une activité de la campagne vers l'autre bord, elle engendre et augmente la puissance de son ennemi, le capital, l'industrie. En livrant le gros des campagnes à l'industrie, elle en fait l'adversaire de la grande propriété foncière. Sitôt que l'industrie a atteint un haut degré de puissance, comme c'est le cas aujourd'hui en Angleterre, elle arrache peu à peu les monopoles à la grande propriété foncière, les tourne contre ceux des autres pays en les lançant dans la concurrence avec la grande propriété foncière de l'étranger. En effet, sous la domination de l'industrie, la propriété foncière ne pouvait assurer sa grandeur féodale face à l'étranger qu'au moyen des monopoles, qui la protégeaient ainsi des lois générales du commerce, incompatibles avec son caractère féodal. Sitôt jetée dans la concurrence, elle en subit les lois, comme toute autre marchandise qui est soumise. Elle devient instable, diminue et augmente, passe de l'un à l'autre, et nulle loi ne peut plus la retenir entre des mains prédestinées. La conséquence immédiate en est l'éparpillement entre de nombreuses mains, et elle tombe irrémédiablement sous la domination des capitaux industriels. Enfin, la grande propriété foncière, qui, tout en se maintenant par la force, a produit à ses côtés une redoutable industrie, conduit bien plus rapidement à la crise que la division des biens fonciers, en regard de laquelle la puissance de l'industrie reste toujours au second rang. Comme nous le voyons en Angleterre, la grande propriété foncière, dans la mesure où elle tend à faire le plus d'argent possible, s'est déjà dépouillée de son caractère féodal et a adopté un caractère industriel. Elle procure aux propriétaires la rente la plus élevée possible, aux fermiers le plus grand profit possible pour son capital. Déjà les ouvriers agricoles sont réduits au minimum. Déjà la classe des fermiers représente, au sein même de la propriété foncière, la force de l'industrie et du capital. Par la concurrence avec l'étranger, la rente foncière perd en grande partie la faculté de constituer un revenu indépendant. Beaucoup de propriétaires fonciers doivent prendre la place des fermiers, dont certains tombent de la sorte dans le prolétariat. En outre, nombre de fermiers s'emparent de la propriété foncière, car les grands propriétaires, qui s'abandonnent fréquemment à la prodigalité grâce à leurs revenus confortables, et qui pour la plupart sont inaptes à diriger l'agriculture en grand, ne possèdent souvent ni capitaux, ni aptitude pour exploiter la terre. Certains se ruinent complètement. Enfin, le salaire, déjà réduit au minimum, doit être réduit encore davantage pour résister à la nouvelle concurrence. La conséquence inévitable, c'est la révolution. La propriété foncière devait se développer de ces deux manières pour y trouver doublement sa ruine fatale. De même que devait se ruiner l'industrie sous l'effet du monopole et de la concurrence, pour apprendre à croire en l'homme. D'ailleurs, en tant que telle, la rente foncière fut battue en brèche. En effet, contrairement aux physiocrates qui prétendent que le propriétaire foncier est le seul producteur vrai, l'économie politique moderne a démontré qu'il était le seul rentier complètement improductif. Aux yeux des physiocrates, l'agriculture était l'affaire du capitaliste qui y destine son capital quand il peut en attendre un profit adéquat. Il proclame que la propriété foncière, seule propriété productive, devait seule payer l'impôt d'État, donc être la seule à le concéder et à participer aux affaires de l'État. Cette thèse finit par se changer en son contraire. L'impôt sur la rente foncière est le seul à frapper un revenu improductif, donc le seul qui ne soit pas préjudiciable à la production nationale. Cela admis, il est évident que le privilège politique des propriétaires fonciers cesse de résulter de leur position comme principaux contribuables.